Phytoculture, présenté par Romain.
Bienvenue à tous dans Autoculture, le magazine de toutes les cultures. Un numéro d'Autoculture aujourd'hui consacré à la visite que j'ai effectuée récemment dans les locaux de l'association Emo5.com, qui est une association de conservation du patrimoine électronique, c'est-à-dire de l'informatique et des jeux vidéo. J'ai notamment pu rencontrer son vice-président, M. David Soumet, et évidemment, l'une des premières questions que je lui ai posées, c'est de m'en dire un peu plus sur cette association atypique.
Bon, c'est une association qui découle d'un forum qui s'appelait Emo5.com, qui date du milieu des années 90, qui a été basé principalement sur la collection de Philippe Dubois, et qui a accumulé tellement de matériel, et qui a formé une communauté avec les années, et ils ont décidé en 2003 de créer une association qui regroupe tout ça dans un local unique, et qui permettrait de la sauvegarde du patrimoine numérique, donc de glaner le matériel informatique, de le nettoyer, de le remettre en marche et de le stocker. Le but à terme étant de créer un musée de l'informatique.
Comme on l'entend, M. Soumet parle notamment de la création d'un musée de l'électronique et des jeux vidéo. Or, il est vrai que l'un des axes forts de cette association, c'est vraiment de faire partager ses collections au plus grand nombre. Ainsi, à la fin de l'année 2011, Emo5 avait organisé avec le Grand Palais à Paris une exposition appelée Game Story, qui avait fait un véritable carton avec plus de 63 000 visiteurs en à peine 2 mois. Mais quant à la création réelle d'un musée de l'électronique et des jeux vidéo, c'est une autre paire de manches. Les choses sont très lentes, et l'une des raisons principales, c'est que l'apport des jeux vidéo à la culture est encore très peu reconnu par les pouvoirs publics quand il n'est pas vu négativement. Conséquence, l'association est très peu aidée et tourne quasiment uniquement sur ses fonds propres. Le vice-président nous a ensuite fait visiter une partie des entrepôts où l'association entrepose les 40 000 consoles, ordinateurs, écrans, jeux vidéo à sa disposition dans les collections.
Dans ce local, on a deux parties. On a une partie hardware un peu lourde. On retrouve les installations en silicone graphique qui ont notamment servi à animer des personnages comme Donkey Kong dans les émissions de jeunesse le mercredi après-midi dans les années 90.
Ouais.
Oui, Terminator 2 aussi. Toutes ces machines d'époque nous ont été données. Elles sont présentes ici.
Vous en avez un bon.
Oui, parce que ça évolue vite. Hein, la puissance. Il y a un besoin de puissance qui est infini là-dessus. Donc, ils renouvellent le stock régulièrement. Et on a récupéré pas mal de machines, principalement des années 90. On retrouve des vieux ordinateurs, les Atari ST, qui concurrençaient pas mal les PC avant que ceux-ci ne se développent et deviennent un peu plus accessibles au niveau tarif.
C'est un Minitel, ça ?
C'est un Minitel. C'est une des milliards, enfin des xièmes déclinaisons du Minitel. Effectivement, on en a là, on en a ici à touche, on a le modèle couleur. Alors, on a été en avance au niveau des réseaux informatiques en France grâce au Minitel, et on a été en retard sur Internet grâce au Minitel.
Au fur et à mesure de notre avancée devant des étagères remplies à ras-bord d'objets électroniques les plus divers, il est même possible de redécouvrir des objets familiers.
Ah, ça c'est ma jeunesse, la Super Nintendo.
Oui, années 90, effectivement. Tu es né avec la Super Nintendo.
Je suis né avec la Super Nintendo, exactement.
Voilà, bon, on a toutes les déclinaisons possibles. On a de la Super Famicom, on a de la Super NES, qui est la version américaine. On a les jeux qui vont avec également. On a des choses aussi un peu plus anecdotiques. Bon, les traditionnels convertisseurs qui permettaient de passer des jeux japonais ou américains sur sa console française.
Ça, je l'avais pas.
C'était courant pourtant à l'époque. Et ça se vendait bien. Bah, ça permettait de jouer à des jeux qui, pour la plupart, ne sortaient pas en France. Les premiers Final Fantasy ne sortaient pas en France. Ils estimaient qu'on n'était pas assez gros. Oui, ça les enquiquinait, puis ça a changé, notamment avec Final Fantasy VII sur PlayStation,
ouais,
qui a quand même révolutionné la diffusion de ce type de jeu, surtout en France.
Devant une telle profusion d'objets électroniques, je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander comment il expliquait que le jeu vidéo, notamment pour les jeunes, soit à ce point devenu partie intégrante de la culture au sens large, au même titre que le cinéma ou la littérature. Alors qu'il y a encore 15 ans, il était vu comme une sous-culture pour geeks.
C'est relativement simple, c'est une culture qui est plutôt récente, 30-40 ans. Le gros de l'informatique et des jeux vidéo s'est formé dans les années 80, le plus populaire en tout cas. Et ce sont les générations des années 80 qui aujourd'hui ont vieilli, ont des familles. En règle générale, n'ont pas lâché l'informatique ou le jeu vidéo, qui aujourd'hui... promouvoir l'avancée de ce genre de démarche. Ils sont contents de retrouver les vieilles machines. Il y a de la nostalgie qui joue pour beaucoup. Et c'est quelque chose qui a grandi avec eux. Donc aujourd'hui, qui se passerait de son iPhone ou son micro-ordinateur ? Plus personne. Donc la culture est là, c'est reconnu, ça rapporte des milliards, ça vient même potentiellement concurrencer le cinéma. C'est quelque chose qui a pris beaucoup d'importance, c'est justement ces 15 dernières années. Et on retrouve dans le comportement des gens et des politiques un changement depuis 3 à 5 ans, où effectivement on commence à s'apercevoir que c'est une culture à part entière et que ça a sa place dans un musée.
Autoculture, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que le compte-rendu de cette visite vous a plu. À la prochaine sur Autoradio, et en attendant, n'oubliez pas de découvrir autant que vous le pouvez.
Autoculture, présenté par Romain.